Le 1er décembre 1989, après plusieurs mois de grandes souffrances morales et physiques, s'éteignit Albano dans la maison de la fraternité, Madame Katharina Tangari. Souffrances qui furent toutes offertes pour la fraternité, tout spécialement pour Mgr Lefebvre. Durant les derniers mois de sa vie, elle répétait volontiers ces quelques phrases. Mgr Lefebvre est le seul évêque au monde qui nous permet de vivre intégralement notre foi catholique. Nous ne pourrons jamais, jamais assez remercier notre archevêque pour tout ce qu'il a fait pour l'Église et pour nous. Qui était cette femme ? Pour beaucoup de vous, parmi vous, c'est une inconnue. Peut-être vous avez entrevu sa silhouette à Écône. Je ne prétends pas faire une conférence sur sa personne, mais plutôt un entretien familier, car même si j'ai eu la grâce depuis 1976 de la connaître assez bien, je ne prétends pas connaître toute sa vie. C'est une femme humble, qui ne racontait pas volontiers ce qu'elle avait fait durant sa vie. Elle m'a raconté des faits, oui, mais pas tout. D'autre part, elle nous a laissé à la fraternité le peu de choses qu'elle avait. On a trouvé un certain nombre de papiers que j'ai moi-même commencé un peu à lire. Je n'ai pas pu tout lire encore. D'autre part, une grande partie est écrite en allemand. Je ne connais pas cette langue. D'autre part, les papiers qu'elle nous a laissés ne retracent pas toute sa vie, même si elle avait l'habitude souvent d'écrire à la fin de la journée ce qu'elle avait fait, au moins au sujet de sa vie spirituelle. Une partie ont été détruites à l'occasion d'un incendie. Donc nous avons peu d'éléments, et d'autres prêtres certainement l'ont bien connu dans la fraternité. Je pense à l'abbé Schmidberger, à l'abbé Wotzak, et à d'autres prêtres, et j'espère que d'ici quelques mois, en ayant des témoignages de droite, de gauche et aussi de personnes qui l'ont bien connu en Autriche, en Allemagne, en Suisse alémanique, de pouvoir avoir une vision plus complète de sa vie. Je vous donnerai donc les éléments que actuellement j'ai à disposition. Elle est née le 10 mars 1906 d'une famille d'officiers, famille dont elle louait toujours l'exemple de vie catholique. Elle est née à Vienne. Nous ne savons rien sur sa première enfance, sa première partie de sa vie. La seule chose que nous savons, c'est que jeune fille, elle a été dans une famille passée un certain temps en Norvège, dont elle a pris l'occasion pour apprendre la langue. En 1931, elle arrive en Italie, où elle travaille, il semble, auprès de plusieurs consulats allemands. C'est à cette époque, en 1931, à Naples, qu'elle va connaître celui qui deviendra son mari simplement en 1943. Connaissant ce jeune médecin, ayant connu ce jeune médecin à Naples, elle s'aperçoit que s'il a un don certainement pour la médecine et la chirurgie, et il a été certainement un professeur très connu à Naples, très habile dans sa profession, il n'avait aucun talent et aucune facilité à écrire. Et en Italie spécialement, pour faire carrière et monter les grades universitaires, entre autres, dans le domaine de la chirurgie, il faut rédiger des mémoires. Elle étant pauvre, ses parents officiers ne lui ayant rien laissé, elle dit « il faut que je puisse apporter à celui qui sera mon mari quelque chose ». Et elle se met d'elle-même, chez elle, à étudier la médecine. Elle va étudier pendant 3 ans la médecine. Et au bout de la 4e année, elle va commencer à rédiger des études médicales. Et elle va rédiger pour son mari 40 mémoires sur des spécialisations diverses dans le domaine de la médecine. Elle fait cela souvent le soir, tard ou dans la nuit, car dans la journée où elle travaille à un certain moment dans le consulat, ensuite elle a arrêté, mais elle s'est consacrée pour pouvoir vivre à des traductions de l'italien en allemand. Entre autres, elle a traduit cette œuvre très célèbre en Italie, l'histoire de la littérature italienne, par Papini, et elle traduira ça par une grosse maison allemande, une grosse maison d'édition. Et c'est à la suite, entre autres, de cette publication dont plusieurs revues spécialisées avaient parlé qu'elle sera de nouveau prise auprès du consulat allemand de Naples. Le 16 août 1943, le jour de la Saint-Joachim, elle épouse donc ce chirurgien Corrado Tangari. Durant la messe de mariage, par une inspiration certainement qui lui est venue du bon Dieu, elle s'offre en victime pour la sanctification du sacrement de mariage. Le Seigneur la prend sur le sérieux puisque 3 mois après, même pas, le 6 novembre 1943, il y avait la guerre en Italie, elle est arrêtée par des officiers anglais et américains. On la met immédiatement dans une cellule d'isolement et de rigueur. Cellule obscure, humide, pleine d'insectes, de poux et de punaises, au point que les parois du mur étaient, elle-même disait, étaient comme tapissées, comme un tapis de ces insectes. Elle obtient, parce qu'à l'époque les prisons étaient tenues par des religieuses, elle obtient la permission de la supérieure de pouvoir sortir la nuit de sa cellule pour pouvoir aller dans la chapelle de la prison. Elle passera ses nuits en adoration devant le Saint-Sacrement. Elle ne sera jamais, jusqu'à sa libération complète, pourquoi elle a été arrêtée, par qui. On l'accuse d'espionnage, du fait qu'elle parle allemand. Au bout de quelques mois, la veille de Noël, elle a la visite des officiers anglais et américains qui reconnaissent en fait son innocence et qui vont la libérer pour le jour de Noël. Donc, elle est arrêtée début novembre, elle est libérée le 24 décembre. Peu de temps après, son mari tombe malade de typhus, maladie contagieuse qui aurait dû être déclarée à l'époque, et pour éviter que son mari soit transporté dans je ne sais quel lieu d'isolement, elle s'enferme dans l'appartement avec son mari pour le soigner et le veiller jour et nuit. Fin février, arrive un jeune homme ayant une mitraillette avec lui, se disant envoyé par le consulat allemand, ce qui était un mensonge à l'époque parce qu'il n'y avait plus de consulat allemand à Naples, et lui demandant de lui rendre service. Elle, comprenant très bien qu'il y avait certainement quelque chose en dessous qui n'était pas très clair, refuse, il insiste, il lui dit « Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé, donnez-moi au moins quelque chose à manger. » Chez elle, elle n'a plus rien, pratiquement, et elle écrit un petit billet à donner à la concierge de l'immeuble en disant « Donnez-lui 2 œufs sur le plat et un morceau de pain. » Bien sûr, la concierge n'a jamais vu ce billet et ce jeune homme est parti. Et début mars, elle est de nouveau arrêtée. Alors, elle va subir un certain nombre d'interrogatoires. Le 19 mars, elle est convoquée dans la centrale, on peut dire, le lieu où se rassemblaient les alliés à Naples et où étaient des cellules où on fusillait les prisonniers. Elle savait très bien, lorsqu'elle était appelée là, qu'elle serait certainement condamnée à mort. Le matin, elle a la sentence de sa condamnation à mort et on lui demande de faire sa défense, de se justifier. L'accusation était qu'elle travaillait comme une espionne au service de l'Allemagne. Alors elle l'a dit, elle a eu comme une prémonition, ou peut-être même une certaine, je dirais pas vision, elle avait plutôt ce qu'elle appelait des locutions intérieures, elle sentait dans la prière ce qu'il des fois allait lui arriver. Dans la nuit précédente, donc la fête de Saint-Joseph, elle a su que le lendemain la condamnerait à mort. Elle a passé la nuit à prier le chapelet. Et le lendemain, lorsqu'elle a été appelée, elle a pris qu'une seule chose avec elle, son chapelet en main. Et elle va se défendre pendant 9 heures de suite en anglais, dans un anglais parfait, parce qu'elle parlait très bien l'anglais, elle connaissait bien la mentalité anglaise. Elle se défendra si bien qu'à la fin de la journée, les officiers vont changer sa peine, donc de condamnation à mort, à la prison durant tout le temps de guerre. Et elle va être donc d'abord dans cette prison à côté de Naples, la prison de Naples qui s'appelle Poggio Reale. Au printemps suivant, l'été suivant, le 4 août, elle s'est transférée à Padula, qui se trouve au sud de Naples, du côté de Salerne. Padula, c'est le lieu d'une ancienne chartreuse où les Alliés avaient fait un camp de prisonniers. C'est là où elle passera un certain nombre d'années, donc deux mois tout au moins, puisqu'en la fin 45, ce camp est dissous. Les prisonniers, une grande partie, on les laisse libres, mais elle est sur la liste noire et on la transporte dans le camp de punition de Terni, qui se trouve au nord de Rome. Et le 20 mai 46, elle sera transférée dans le camp des criminels pour femmes à Riccione, c'est une petite ville au sud de Rimini, où elle finira sa prison. Elle sera libérée le 12 octobre 1946. Donc, ça fait 3 ans de prison. Ce qu'elle a fait en prison, dans cette première période de prison de sa vie, personnellement, je ne sais pas grand-chose. Certainement, vu sa capacité, c'est une femme extrêmement intelligente, très capable d'organiser, elle avait une âme naturelle de chef. Et en quelque sorte, elle s'était créée, c'était le personnage de la prison. Et c'est à elle qu'on référait lorsqu'il y avait des difficultés entre prisonniers, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup prié et qu'elle considérait ses années de prison comme les grandes grâces de sa vie. Un des faits que je n'ai pas su par elle, mais qu'une autre personne m'a raconté lorsqu'elle était dans cette chartreuse de Padula, transformée en camp de prisonniers, elle se promenait, et il y avait le cimetière, l'ancien cimetière de cette chartreuse, elle passe devant une tombe, et à ce moment-là, son chapelet lui est tombé des mains. Et elle, qui était très sensible sur tous les signes du Seigneur, a vu en cela un signe que certainement ce moine qui était dans ce tombeau avait besoin de prière. Et pendant très longtemps, plusieurs années, elle va prier d'une manière toute spéciale pour ce moine, jusqu'au jour où elle a comme une lumière intérieure que cette âme est libérée, qu'elle est partie au ciel. En sortant de prison, elle va continuer une vie chez elle, elle va travailler, ouvrir un laboratoire même, pour des fils qui servent à la chirurgie. Elle-même montera ce laboratoire et participera même à ce titre à des conférences internationales sur la chirurgie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que en 1949, elle va entendre pour la première fois parler de Padre Pio. Et le 1er mai 1950, elle rencontre pour la première fois Padre Pio. Elle deviendra une fille spirituelle de Padre Pio, qui va la guider, la former et même la lancer dans un certain nombre d'apostolats et je dirais des plus divers. Elle fréquentera régulièrement Padre Pio de 1950 à 1968, date de la mort de Padre Pio. Je ne vais pas vous parler, disons, de ce qu'elle a connu, ce qu'elle savait sur Padre Pio, puisqu'elle a écrit un livre sur ce sujet, ce qu'elle appelle le message de Padre Pio, livre qui a été écrit en allemand, traduit en italien, traduit aussi en tchèque, et qui sera publié, j'espère, d'ici un mois ou un mois et demi plus tard, en français, qui sera bientôt donc en vente. Mais certainement, elle a eu un grand contact et une grande familiarité, je dirais, avec Padre Pio. Je ne parlerai pas non plus de toute cette période de sa vie de 1900, je dirais, de la sortie de prison jusqu'en 1963, parce qu'on sait peu de choses, ou au moins son apostolat fut moins public, disons, moins évident pour nous. Mais certainement, ce fut une femme qui a beaucoup prié. Lorsqu'on voit ses notes de prière, elle a des carnets, c'est une femme qui passait facilement 5 à 6 heures en prière dans les églises chaque jour, en priant le chapelet, le rosaire, en assistant à plusieurs messes lorsque cela était possible. Ce que je retiendrai, c'est un fait, parce qu'elle a eu plusieurs dates importantes dans sa vie, c'est 1951. Je ne sais pas, je sais que c'est au cours de l'année 1951, je n'ai pas encore, j'espère qu'on retrouvera la date exacte. Elle vivait donc à Naples, sa famille était à Vienne, sa mère vivait encore, et chaque année, comme elle allait voir, visiter sa mère. Et comme bonne autrichienne, elle allait profiter de cette occasion pour aller visiter le grand sanctuaire de l'Autriche, Mariazell. Mais en 1951 et toute la période après la guerre, l'Autriche était occupée par des forces étrangères. Il y avait l'Allemagne, les Anglais et les Russes qui s'étaient répartis le territoire, et pour traverser l'Autriche, il fallait passer en quelque sorte ses frontières. Elle avait pris le matin le car à Vienne pour aller à Mariazell. À 7 km de Mariazell, zone russe, contrôle des passeports. Elle étant mariée en italien, ayant un passeport italien, bien sûr, elle est arrêtée vu qu'il y avait un conflit entre Italiens et Russes. Lorsqu'on demande aux habitants de la région, ils vous disent que toutes les personnes qui ont été arrêtées à l'époque par les Russes ont disparu. Ce qu'ils sont devenus, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont été déportés? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont été fusillés sur place et enterrés? On ne sait pas. En tout cas, ceux qui ont été arrêtés à l'époque ont tous disparu. Donc, elle descend du car. Le chauffeur, même très embêté, dépose ses valises sur le bord du chemin, continue sa route. Deux soldats l'emmènent un peu à l'intérieur de la forêt, là où il y avait ce qui servait la baraque du commandement, pour la présenter aux officiers. Elle m'a raconté elle-même à plusieurs reprises, elle arrive devant cette maison, on veut la faire rentrer, à ce moment-là ses pieds se figent au sol, elle était incapable de faire un pas en avant ou en arrière, comme si ses pieds étaient fixés au sol, au point que les soldats ont essayé de la prendre, impossible de la bouger. Les officiers sont sortis et ont dû constater le fait que même ça ne dépendait pas d'elle, on était incapable de la bouger. Elle était, pour dire, par un miracle, fixée devant cette porte du commandement. Alors à ce moment-là, elle a prié, beaucoup prié, et elle a promis à notre Seigneur que dès qu'elle serait libérée, la première chose qu'elle irait faire la Sainte Communion. Donc elle a dû être arrêtée dans la matinée, peut-être même vers 10 ou 11 heures. À midi, en tout cas, il y a un changement de garde. Les deux soldats qui étaient à l'extérieur rentrent à l'intérieur, et à ce moment-là, un paysan qui devait surveiller d'un peu loin la scène, lui crie, lui fait signe, « Vous avez 2 minutes pour partir, venez, venez en courant. » Elle m'a dit, j'ai senti mes jambes se délier, et elle a rejoint ce paysan. Et dès qu'elle a vu le paysan, elle lui a dit, « Maintenant, il faut me conduire à Mariazell. » Je l'ai promis à la Sainte Vierge. Il lui a dit, « Ce n'est pas possible. » Il faut traverser cette zone de la forêt qu'on appelle la zone de la mort. Lorsque les Russes entendent du bruit, ils mitraillent sans regarder. Elle a dit, j'ai promis à la Sainte Vierge, il faut y aller. Alors ce paysan lui a donné un fagot de bois pour la déguiser un peu en paysanne et l'a accompagnée. Et au bout d'un ou deux kilomètres, ils ont traversé une grande clairière où il y avait des fleurs de gentiane. Elle a dit aux paysans, vous voyez, il ne faut pas vous inquiéter, la Sainte Vierge nous protège, elle a mis son manteau par terre. Elle arrive vers 5 heures de l'après-midi au sanctuaire, la stupéfaction des pèlerins qui étaient dans le car, en disant, elle était arrêtée ce matin par les Russes, et la voilà présente. Elle, en tant que bonne catholique et bonne pratiquante, rentrant dans le sanctuaire, va directement à l'autel du Saint-Sacrement, pour adorer notre Seigneur, se met à genoux lorsqu'un prêtre arrive avec le surplis, l'étole, ouvre le tabernacle et lui dit « C'est bien vous, madame, qui désirez la communion. » Alors qu'elle n'avait rien demandé et pensant que nous sommes en 1951, il était impensable à l'époque de faire la communion l'après-midi à cause du jeûne eucharistique. Après-midi, à l'heure de midi, il n'y avait plus de messe, il n'y avait plus de communion à part pour les mourants. Alors elle a pu recevoir la communion. Elle a été ensuite à l'autel de la Vierge, bien sûr, remercier la Sainte Vierge. Et ensuite, elle est descendue les quelques marches qui séparent, lorsqu'on sort de la basilique, il y a un autel où elle avait l'habitude de descendre. Elle arrive à l'autel et la patronne de l'autel lui dit « Ah ben oui, vos bagages sont là. » Elle m'a dit « J'ai jamais su, on n'a jamais su comment ces bagages étaient arrivés là, alors qu'ils avaient été restés sur la route. » Et c'est une date certainement qui a beaucoup marqué Madame Tangari. Et dès l'année suivante, retournant à Mariazell en 1952, elle fait ce vœu pour remercier la Sainte Vierge de refaire au moins pendant 30 ans ou 33 ans, en tout cas elle l'a fait certainement 33 ans et même un peu plus, de refaire chaque année, pieds nus, le trajet entre le lieu de sa libération et le sanctuaire, ce qui fait entre 7 et 8 kilomètres. Elle le faisait le premier samedi de novembre. Mariazell est à déjà 1500 mètres d'altitude. Souvent dans la neige, le verglas, la boue. Elle l'a fait, j'ai eu la grâce, je peux dire, de l'accompagner à plusieurs reprises. Elle est entre autres les dernières fois où elle a été à Mariazell, et donc même le premier samedi de novembre 1988. C'est l'unique année où elle n'a pas fait elle-même à pied ce pèlerinage, n'ayant plus la force de le faire. Mais toutes les autres années, moi je l'ai vu moi-même, elle prenait la tête de ce pèlerinage. Pendant de nombreuses années, elle l'a fait seule. Et ensuite, bon, des amis qui l'ont connue la suivaient. Les dernières années, il y a une centaine de personnes à la suivre. Je dis, il la connaît bien vu qu'elle venait souvent à Albano, malade, souffrante, asthmatique. Elle était incapable de faire plus de 200 ou 300 mètres à pied sans souffler. Si les premières années, en 76-77, elle venait à Albano quelquefois par le train, depuis longtemps, elle ne pouvait plus parce que les quais, c'était trop long, sortir de la gare, elle était essoufflée, ne pouvait pas monter les marches, etc. Eh bien, moi, je l'ai vue plusieurs fois, même malade la veille de ce pèlerinage. Le jour du pèlerinage, elle prenait la tête et pendant 7 kilomètres, pendant 2h30, elle ne s'arrêtait pas en silence et récitait son rosaire. Donc, elle a fait ça, je dis, jusqu'en 88. Et ensuite, elle a transmis ce pèlerinage. Elle a demandé si la fraternité pouvait le continuer. C'est ce qui a été fait en 89. Une autre date qui marque sa vie, c'est le 9 mai 1965. Quelques jours avant, le 3 mai, elle va à San Giovanni Rotondo. Le 4 mai, elle se confesse à Padre Pio, comme d'habitude. Et Padre Pio lui dit, après la confession, « En toute chose, remerciez le Seigneur. » Et lui répète trois fois après, « Tu as compris, tu as compris, tu as compris. » Elle a dit, « Mais qu'est-ce que veut me dire Padre Pio avec cela ?» Elle rentre à Naples, le dimanche suivant, le 9 mai, elle assiste à la messe, et on vient la chercher durant la messe en lui disant, « Votre appartement est en train de brûler. » Un incendie qui lui a pratiquement détruit tout ce qu'elle a, le peu de choses qu'elle avait. Elle a toujours considéré cet incendie comme une grâce du bon Dieu. Et dans son cahier spirituel, l'année suivante, le 9 mai 66, elle écrit en titre « Premier anniversaire de l'incendie à la maison » et elle souligne. Elle écrit « Je me suis rappelé de cette date et j'ai médité sur tout ce qu'elle m'a porté de bien. Je n'ai pas à faire autre chose que de remercier de tout cœur le Seigneur et sa providence. En ce sens, j'ai offert la Sainte Messe, les prières et la Sainte Communion. » Et cela faisait partie en quelque sorte d'une étape de la formation que Padre Pio lui avait donnée. Et elle expliquait que la formation spirituelle qu'elle lui avait donnée à elle, Padre Pio, il y avait trois étapes en quelque sorte. La première, savoir accepter tout ce que vous envoie le Seigneur. Deuxième étape, savoir offrir tout ce que nous envoie le Seigneur. Et enfin, troisième étape, savoir remercier le Seigneur. Quand je l'ai connu, tout ce qui pouvait lui arriver, même des souffrances, la première chose qu'elle faisait, c'était de remercier. Et lorsqu'au mois de juillet dernier, on m'a appelé parce qu'elle était tombée et s'était cassé le col du fémur, on venait de la mettre sur son lit, je suis arrivé, elle m'a dit, Abbé Duchalard, il faut remercier le Seigneur. Et je dirais toutes les dernières années de sa vie, tout ce qui lui arrivait, c'était le remerciement. Accepter, offrir, pour elle, était devenu une évidence. Je voudrais vous parler maintenant d'une partie importante de son apostolat. Elle a eu d'autres apostolats dont je ne connais pas exactement la nature. Je sais que Padre Pio lui avait demandé de trouver de l'argent pour construire un autel ou une chapelle. Je n'ai pas très bien compris et trouvé exactement la chose. Mais elle avait aidé Padre Pio. Padre Pio lui avait demandé, je ne sais plus, c'était pour la construction, je crois, d'un autel dans une église. Un beau jour, Padre Pio lui dit, après une confession, « Madame Tangari, il faudrait faire de l'apostolat. » Vous savez que Padre Pio était très bref, puisque les confessions duraient que 3 minutes, et qu'en 3 minutes, il avait le temps de tout dire. Ses pénitents avaient la grâce de comprendre ce que voulait dire Padre Pio dans ses phrases très brèves. Et elle a tout de suite compris que ce que lui demandait Padre Pio, c'était d'aller aider les prêtres persécutés. Alors elle est rentrée chez elle, elle a commencé un peu à en parler autour d'elle, elle a prié, et puis elle est rentrée de nouveau, elle a été voir Padre Pio, lui a dit, Padre Pio, personne ne veut m'aider dans ma famille autour de moi pour cet apostolat. Et Padre Pio dit, alors on a perdu la foi, à genoux et prier. Et elle a commencé à prier à cette intention, et de fait, lui sont arrivées des offrandes, pour aider les prêtres derrière le rideau de fer. Au bout de quelque temps, elle avait accumulé une certaine somme pour ses prêtres, mais il fallait aller porter cet argent, ou au moins les dons qu'elle avait reçus aussi. Et Padre Pio était très exigeant sur le respect de l'intention des bienfaiteurs. Si cet argent était donné pour les prêtres derrière le rideau de fer, cela devait servir aux prêtres et pas autre chose. Et elle ne voulait pas utiliser même une partie de cet argent pour payer son voyage et aller derrière le rideau de fer. Alors elle était revoir Padre Pio, lui a dit « Maintenant, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai rien pour faire ce voyage. » Elle lui a dit « On a encore perdu la foi, à genoux et prier. » Et elle a reçu des dons pour ses voyages. Et je peux vous dire qu'elle a reçu jusqu'à la fin de sa vie des dons pour ses voyages. Lorsqu'elle venait à Écône, elle allait à Maria de Sel, elle allait à Fatima, c'était des gens qui la connaissaient, qui lui offraient ses voyages. Alors comment s'est passé cet apostolat derrière le rideau de fer? Elle a tout confié à l'enfant Jésus de Prague, en qui elle avait une très très grande dévotion. Alors elle s'est fixée comme objectif d'abord son point de départ Prague. Bon, elle a sans doute demandé, je n'ai pas tous les renseignements, mais les permissions donc pour faire du tourisme. C'était le seul moyen à l'époque pour pouvoir rentrer dans ces pays communistes. En général, elle m'expliquait qu'elle prenait un wagon-lit, puisqu'il y a des compartiments indépendants, ce qui lui permettait de mettre ses 7, 8, 10 valises remplies d'images, de chapelets, de vêtements, de médicaments, et puis aussi de l'argent. Il fallait passer les frontières, et on sait bien que la moyenne de temps d'interrogatoire de fouilles. À l'époque, c'était entre 2 et 3 heures à chaque frontière communiste. Eh bien, à chaque fois que les douaniers, la police ou l'armée faisaient les contrôles, elle se mettait à genoux dans le compartiment et elle priait. Et lorsqu'on ouvrait ses valises, on lui disait « pas plus de 10 images ». Elle ne répondait pas et elle continuait à prier. eh bien, elle a passé plus de 100 fois le rideau de fer, que ce soit avec la Tchécoslovaquie ou la Pologne, et les douaniers ont toujours refermé la porte. Personne ne l'arrêtera pour cela. Mais c'était dans la prière. Et à genoux, mais souvent une prière dans les larmes. Alors son premier voyage, comme cela était permis pour les étrangers, il fallait d'abord retenir une chambre à l'hôtel ou l'hôtel pour les étrangers à Prague, un hôtel de luxe. Alors elle a pris un taxi à la gare, elle a été à l'hôtel, elle a déposé dans sa chambre tous ses bagages et ensuite elle s'est fait accompagner au sanctuaire de l'enfant Jésus de Prague où elle a passé d'abord toute une journée en prière devant l'enfant Jésus. À la fin de la journée, elle a remarqué qu'il y avait un prêtre qui était sans doute responsable du sanctuaire. Le lendemain, elle revient avec une valise. Elle va passer encore toute la journée en prière. Lorsqu'elle voit le prêtre passer, elle lui fait signe et lui montre la valise. Et le prêtre lui fait non. Parce qu'ils avaient très peur, ces prêtres, derrière le rideau de fer, que ce soit des pièges. La police avait l'habitude d'essayer de donner de l'argent aux prêtres, etc., pour pouvoir ensuite les arrêter, les enfermer. Alors le prêtre refuse. Le soir, elle laisse la valise un peu plus proche, à côté de l'hôtel de l'enfant Jésus. Elle retourne à l'hôtel. Elle retourne à son hôtel. Et c'est à partir de là que va se développer tout son apostolat. Aussi bien en Tchécoslovaquie qu'en Pologne. Elle connaîtra un très grand nombre de prêtres, des religieuses, souvent dans les campagnes, regroupées dans des fermes, vivant, je dirais pas comme des animaux, mais presque dans une grande, grande misère. Et qu'elle apportait ce qu'elle pouvait, et surtout elle les réconfortait par sa prière, par ses conseils, leur parlant de Padre Pio, plus d'un de ses prêtres deviendront des fils spirituels de Padre Pio. Bon, on ne pouvait pas être, il fallait que Padre Pio accepte une âme comme fils spirituel. Eh bien, lorsqu'elle revenait en Italie, elle demandait à Padre Pio pour tel ou tel prêtre s'il pouvait devenir fils spirituel. Et il disait oui ou non, pas toujours oui. Donc, elle passera de 1964 à 1971 plus de 100 fois derrière le rideau de fer. Elle en profitera aussi donc pour aller en Allemagne, en Autriche, pour faire des conférences sur Padre Pio, et c'est souvent ces groupes de prière qui lui donnaient des offrandes pour lui permettre d'aider ses prêtres. Le vendredi saint 1971, elle est en Pologne pour la dernière fois, à Nowa Huta. Le jeudi de Pâques 1971, elle part de Vienne pour la Tchécoslovaquie. Elle est arrêtée à la frontière de Hat avec accusation de vouloir introduire 6 900 couronnes, c'est la monnaie tchèque, et elle risque pour cela de 6 mois à 3 ans de prison pour tentative de mettre en danger la gestion économique des valeurs étrangères. C'était le motif officiel. Elle est enfermée dans la prison de Brno, pas loin de la frontière autrichienne. Elle a su après pourquoi cette arrestation. Bon, je sais qu'une fois à Prague, elle s'était rendue compte que sans doute on la suivait. Mais il semble bien que ce ne soit pas la police, que ce ne sont pas des prêtres qui ont parlé, mais que ce soit une femme, par jalousie du bien qu'elle faisait, qui a été la dénoncée à la police. Et c'est pour cela qu'elle a été arrêtée. Elle a commencé par une grande humiliation, elle qui était une femme très mortifiée, je dirais très modeste. On lui a arraché tous ses vêtements, on les a mis dans un sac et on lui a fait prendre une douche glaciale. Elle disait, ma seule pensée à ce moment-là, eh bien, c'était notre Seigneur qui portait sa croix. Ensuite, elle va le suivre un très grand nombre d'interrogatoires où on va chercher à lui faire dire le nom des prêtres qu'elle a aidés et les lieux où se trouvaient les prêtres. Premier interrogatoire, elle va faire ce qu'elle pourra pour pas trahir. Elle rentre dans sa cellule. Elle m'a dit, c'est la seule fois où j'ai entendu, c'était après la mort de Padre Pio, une aide ou une voix de Padre Pio en dehors de mes contacts directs avec lui. Elle a dit « Quand je suis rentrée dans la cellule, j'ai très bien reconnu la voix de Padre Pio qui m'a dit « Tu es une menteuse, tu es une menteuse, tu es une menteuse. » Bon, elle avait raconté ce qu'elle pouvait pour pas trahir ses prêtres. Et elle a répondu « Padre Pio, maintenant, arrange-toi pour que je puisse répondre la vérité à toutes les questions dont je serai l'objet. » Eh bien, elle m'a dit « À partir de ce jour-là, dans tous les interrogatoires, j'ai toujours pu dire toujours la vérité sans trahir un seul prêtre. » Elle a eu une vie en cellule communiste, une très petite cellule, quelques mètres carrés, avec plusieurs personnes dedans, du tout venant des délinquants, des prostituées, vraiment une cellule épouvantable. Elle s'est fait respecter. Lorsqu'elle récitait son chapelet, et j'ai retrouvé dans ses affaires des tout petits papiers où elle écrivait les prières qu'elle faisait chaque jour, au moins pendant une certaine période de sa prison de Tchécoslovaquie. Elle récitait une moyenne de 5 à 6 rosaires par jour, plus le chemin de croix et toutes les autres prières qu'elle faisait. Elle continuera à jeûner, elle a jeûné toute sa vie, tous les vendredis. Et ce qu'elle appelait le jeûne, ce n'était pas une goutte d'eau, pas un morceau de pain, de minuit à minuit. Et je sais même que lorsqu'elle avait des médicaments à prendre, elle attendait minuit pour pouvoir prendre un peu d'eau et prendre ses médicaments. Et le jeûne qu'elle va continuer durant sa prison, elle l'offrira d'une manière particulière pour ses juges. Elle va arriver dans cette prison où elle avait appris le tchèque. Elle parlait 7 langues couramment. Elle arrivera à convertir une jeune fille communiste qui avait à peu près 18 ans. Elle arrivera à la baptiser dans cette cellule, sachant parfaitement que parmi les 7 ou 8 personnes qui étaient dans la cellule, il y avait certainement un mouchoir, quelqu'un pour la trahir. Et elle m'a dit jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si ce n'était pas même cette jeune fille. On l'a attendue un certain moment de l'après-midi où tout le monde commençait à somnoler par la chaleur pour la baptiser. Les interrogatoires se sont prolongés, je crois, pendant plusieurs mois. Et à la fin, là, sa sentence, elle est condamnée à 15 mois de prison. Elle rentre dans sa cellule. Elle ne me l'a pas raconté. Elle a raconté à un petit garçon italien qui faisait sa première communion à Albano, qui, en mai dernier, a été la voix, où il se prépare à la confirmation, et lui a dit « Madame, c'est vrai que vous avez vu la Très Sainte Vierge ?» Et elle lui a raconté le fait. Elle rentrait donc de cet interrogatoire dans sa cellule en ayant dans la tête cette question « Pourquoi 15 mois ? Pourquoi 15 et pas 14 et pas 16 ?» Elle dit, lorsqu'elle est arrivée dans la cellule, elle a vu la Sainte Vierge qui lui a posé la main sur l'épaule et qui lui a répondu « C'est parce que tu es une dévote du rosaire. » Et une expression italienne, « Rosiente, tu sei una rosiente », une personne qui récite, qui aime le rosaire. Ensuite, au mois de juillet, début juillet 1972, elle va être libérée donc de prison, un peu avant même les 15 mois de prison, 3 semaines avant, parce qu'elle est réduite, je dirais, presque à l'extrémité. Elle a maigri de 22 kilos, exténuée. Lorsqu'elle sortira de prison, elle sera plus capable de monter une marche toute seule. Alors elle sort de prison, va à Vienne, va d'abord faire son vœu à Maria Zell. Dès qu'elle aura un peu de force, sa première préoccupation, c'était de faire ce pèlerinage à Maria Zell, puisqu'elle n'avait pas pu le faire en novembre 71. Donc, le premier samedi du mois d'août 72, elle ira à Maria Zell. Elle se chargera sur les épaules d'une grande croix que l'on trouve à l'entrée du sanctuaire de Maria Zell sur la gauche. Il y a une grande croix contre le mur qu'on peut décrocher. Seule, elle refera ses 7 kilomètres pour remercier la Très Sainte Vierge de l'avoir délivrée de ces prisons communistes. J'ai trouvé dans un de ses cahiers spirituels, c'est écrit le 15 avril 1974, pour vous montrer dans quel esprit elle a fait et elle pensait à ses 15 mois de prison. Elle écrit « Aujourd'hui, il y a 3 ans, jeudi de la semaine de Pâques, début de ma prison en Tchécoslovaquie. Grâce spéciale du Seigneur, sans laquelle mon apostolat derrière le rideau de fer n'aurait pas été complet. Merci, merci, merci. Voilà pour, j'espère qu'on aura d'autres détails sur cette période de prison, car elle a écrit, elle avait le projet d'écrire un livre, ses expériences de prison, elle n'en a écrit qu'une partie, c'est la partie qui regarde la Tchécoslovaquie. Alors, j'espère que prochainement ce livre sera traduit et qu'on puisse publier justement un peu. Elle est très, elle ne se met jamais en avant, mais enfin, ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a vu dans la prison peut décrire un peu ce qu'elle-même a souffert, même si elle ne se met pas au premier rang dans ce récit. Alors, que va-t-elle faire en sortant de prison, car son passeport est rayé en rouge, interdiction de retourner dans les pays de l'Est pendant 10 ans. Et ce n'était pas une personne du genre à rester inactive. Alors elle a beaucoup prié, et elle a compris qu'elle devait continuer à aider les prêtres persécutés. Et en même temps, par des lectures, par des connaissances qu'elle avait en Suisse, en Allemagne, en Autriche, elle a commencé à entendre parler des cônes. Et elle s'est dit tout simplement, les prêtres persécutés se trouvent derrière leur rideau de fer. Quand j'ai commencé, il n'y avait que cela. Aujourd'hui, on en trouve aussi dans les pays libres. C'est les prêtres qui veulent rester fidèles à la liturgie de toujours. Ils sont persécutés d'une manière différente, mais ils sont persécutés. Et c'est à moi de leur venir en aide. Et elle va consacrer, on peut dire, la dernière période de sa vie, c'est-à-dire de 1975, très certainement, jusqu'en 89, et si je n'oublie pas, je vous dirai le dernier cadeau qu'elle a fait à la fraternité, à aider les prêtres. Alors, elle connaît Écône, on sait qu'elle a été à Écône, j'ai retrouvé ça dans ses papiers, le 25 et 26 mai 1974. Le 20 novembre 1974, elle est à Écône, elle écrit dans un de ses cahiers, « Seigneur, je ne pourrai jamais assez te remercier pour Écône et pour toutes les grâces reçues en séjour en Suisse. » Le 29 juin 1975, elle assiste pour la première fois aux ordinations à Écône. Alors, on trouve dans son cahier écrit 9h30, 12h30, c'est l'heure des ordinations. Il y a peu de mots. « Sublime, heure catholique, Deo gratias. » Il serait intéressant, ce n'est pas facile à le faire, de voir un peu son cheminement, comment elle a découvert Écône, cette personne de prière, de foi, de pénitent. Certainement qu'elle a souffert pendant longtemps, peut-être d'une manière très, très personnelle, dans le fond de son âme, de cette crise dans l'Église. On trouve cela par quelques phrases écrites dans ses cahiers spirituels. J'ai noté, enfin, ce que j'ai trouvé. Par exemple, le 31 juillet 1972, donc c'était à sa sortie de prison, il y a marqué 6 heures, Sainte Messe silencieuse en latin, Deo gratias. Et à un pèlerinage où on l'avait demandé d'accompagner un groupe d'Allemands à Saint Giovanni Rotondo, elle remarque que tous les pèlerins ont fait la communion à genoux, et elle met Deo gratias. Alors on trouve par quelques impressions comme ça, par exemple en 1974, le 16 mai, elle est à Mariazell, 9h, c'est écrit, « Messe tridentine à l'hôtel de Saint-Benoît, c'est un don de Dieu, silence, latin, beaucoup de recueillement. Que le Seigneur soit béni pour ses prêtres, pour ses saintes messes. » Et par exemple le 25 août 1975, donc elle avait déjà assisté à la première ordination à Écône, bien qu'elle avait connu l'abbé Schmidberger, l'abbé Wotzak. C'était les seuls prêtres, je crois, avec qui elle avait des contacts à l'époque. Et elle écrit dans son cahier, « J'ai demandé ce matin à l'enfant Jésus de me donner des nouvelles d'Écône en lui offrant toute la journée. » Elle met ensuite, « J'ai reçu une lettre express d'Écône. » Donc il lui avait donné des nouvelles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a jamais eu de doute sur l'œuvre de Monseigneur, sur les ordinations qu'elle a faites en 1976, ou même sur les sacres de 1988. Malheureusement, elle n'a pas pu assister elle-même au sacre, étant assez malade. Je dirais même tout l'hiver et toute la période qui a précédé les sacres, elle a été souffrante. Je pense que ce n'est pas sans lien sur tout ce qui s'est passé avant les sacres. Elle me dit toujours, j'offre tout cela pour mon Seigneur. Et je me souviens très bien qu'à Noël 87, elle m'a dit, fin juin, Monseigneur consacrera les évêques. Pour elle, c'était une évidence qu'en fin juin, Monseigneur devait faire des évêques. Ce qui marque certainement, elle avait une très très grande dévotion à la Sainte Messe. Elle avait appris ça, certes, de Padre Pio, mais lorsqu'elle venait à Écône, par exemple pour les ordinations, vous savez qu'il y a souvent beaucoup de prêtres, il y a 100, 120 prêtres, la plupart disent leur messe à Écône, les messes commencent à 4h, 4h30 le matin, jusqu'au moment des ordinations, eh bien, elle assistait au plus grand nombre de messes possibles. Elle ne voulait jamais manquer une messe. Lorsqu'elle venait à Albano, il y avait 3 ou 4 messes, elle assistait aux 3 ou 4 messes. Elle disait, il n'y a jamais de trop grand sacrifice pour assister à la Sainte Messe. Et elle-même venait le dimanche, bien souvent, de Naples, qui est à 180 km d'Albano. Lorsque nous ne pouvions pas aller dire la messe à Naples. Et les dernières années où il y a un centre de messe à Naples, elle venait souvent elle-même. Et je me souviens, pendant longtemps, on a dit la messe dans un bureau qui se trouvait dans un vieil immeuble avec un escalier très raide. Et ça me faisait une pitié de la voir monter cet escalier. On voyait qu'elle soufflait à chaque marche. Elle me disait, chaque marche est offerte à l'enfant Jésus. Pour elle, il ne pouvait pas avoir de trop grands sacrifices pour pouvoir se priver de la messe. Ce n'était pas possible. Et elle disait, si on ne fait pas de sacrifice, bien qu'est-ce qu'on a à offrir au Seigneur durant la Sainte Messe? C'est notre moyen à nous de participer un peu au sacrifice du Seigneur. Femme de prière, je vous ai dit, elle passait 5 à 6 heures en prière dans les églises. De pénitence, je vous ai dit ce jeûne absolu qu'elle faisait. Et puis, son apostolat. Je vous dis quelques mots sur son apostolat qu'elle a fait donc de 1975, très certainement, des ordinations de 1975 jusqu'en 1989. D'abord aux nouveaux prêtres. À tous les nouveaux prêtres, elle leur offrait une aube, le linge nécessaire pour dire la messe, un bel ornement. Si le prêtre ne pouvait pas ou la famille ne pouvait pas l'aider, elle lui offrait un calice, une valise chapelle, et ça, tous les nouveaux prêtres. Donc, prenez, ça fait peut-être 250 qu'elle a donné pour 250 prêtres. Ensuite, pour les séminaires, les ornements dont avaient besoin les séminaires. Non seulement la chasuble, mais dans les séminaires, il faut les grands jeux, comme on dit, diacre, sous-diacre, l'écharpe, 4, 5 chapes pour les vêpres. Jamais ce n'était trop. Et souvent, j'ai fait l'intermédiaire entre nos prêtres et elle. Et des fois, elle me disait, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez lire? Moi, j'étais gêné, alors j'ai dit, c'est peut-être un peu trop. Elle m'a dit, si vous ne demandez pas, la Providence ne m'aidera plus. Plus vous me demandez, plus la Providence m'aide. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette femme vivait dans une grande pauvreté. Elle n'avait rien de s'acheter du pain. Et récemment, une de nos fidèles de Naples m'a dit qu'elle avait été la voir un jour, et sachant qu'elle ne mangeait pas de viande et que du poisson, lui apportait un poisson, elle lui a dit « Oh, c'est une bénédiction du ciel, parce que depuis hier, je n'ai plus rien à manger. » Alors vous me direz, comment elle a fait? Eh bien, ce que lui avait enseigné Padre Pio, par la prière, et en offrant toutes ses souffrances pour son apostolat. Souvent, l'hiver, elle était malade, et elle me disait, Abbé Duchalard, « Pas d'apostolat sans souffrance. » Et ses ornements, elle les faisait faire. Elle voulait qu'ils soient bien faits. Tout ce qu'elle pouvait trouver d'objets sacrés, calice, ciboire, ostensoir, encensoir, tout ce qu'il y avait de mieux, si c'était ancien, elle faisait restaurer, pour le distribuer. Et elle avait 2, 3 magasins qui lui faisaient crédit. On la connaissait et on ne se préoccupait pas. On savait que d'une manière ou d'une autre, cela serait payé. Et les gens qui la connaissaient, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, envoyait directement les dons dans les magasins. Parce qu'elle disait, je ne veux pas toucher l'argent, c'est les choses du démon. Elle ne parlait jamais d'argent, elle parlait de providence. Et je dis, bon, j'ai assez fréquenté, j'étais assez proche d'elle pour vous dire que ce sont des sommes considérables. Ça correspond à des sommes énormes, ce qu'elle a pu donner. Et nous savons tous, il n'y a sans doute pas de maison de la fraternité, de chapelle qui ont été fondées durant ces dernières 15 années où elle n'est pas participée d'une manière ou d'une autre. Et tout par la prière et la pénitence. Il disait, si c'est la volonté du bon Dieu, le bon Dieu se débrouillera, il va bien s'arranger pour que tout cela soit payé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Et rien n'était... Elle ne voulait pas envoyer, elle m'appelait, elle me dit « il faudrait venir parce que si ce n'est pas bien fait, on fait refaire. Rien n'est trop beau pour nos seigneurs. » Et elle-même ensuite, même lorsqu'elle avait dépassé 80 ans, faisait ses colis avec beaucoup d'attention, parce que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait très bien, avec beaucoup d'attention. C'est elle qui faisait les paquets, allait à la poste et envoyait ça dans toutes les parties du monde. Et puis pour les ordinations, d'habitude elle m'appelait, elle chargeait la voiture et nous partions ensemble au moins les dernières années pour Écône. Alors elle me laissait tout en général, elle disait « il faut laisser ça au diacre ». Bien qu'elle m'ait fait passer des fois la frontière avec une voiture pleine. Elle me disait « il ne faut pas vous inquiéter, il faut prier les âmes du purgatoire, les douaniers qui sont encore au purgatoire. Il y en a peu qui les prient. Priez, vous verrez, ça passe tout seul. » Il n'y a qu'une fois, elle m'a dit « laissez tout à Montalengué, les diacres se débrouilleront. » Bon, j'ai laissé, puis il y avait une boîte d'hosties, elle voulait offrir les hosties pour les ordinations, il y avait 5000 hosties, je dis « je vais prendre ça ». Bien, on m'a arrêté, au moins pendant une demi-heure, on m'a fait des histoires pour ces hosties. Mais elle disait « faut prier les douaniers qui sont encore au purgatoire, les âmes des douaniers au purgatoire. » Et elle a passé ainsi, elle a donné partout tout ce qu'elle pouvait, elle était contente de donner, en disant « plus vous me demandez, plus le Seigneur m'aidera ». Et son apostolat ne se limitait pas simplement à cette aide des prêtres, en spécialement tout ce qui regarde la messe, ce qui regarde l'autel. Elle a aidé aussi plusieurs séminaristes, il y en a qui pourraient témoigner, qui avaient eu des difficultés, c'est normal, le démon fait son travail dans la vocation, etc., qui ont été la voir, et qui, aujourd'hui, s'ils sont prêtres, eh bien, c'est certainement grâce à ses conseils et grâce à ses prières. De même, elle avait ce qu'on appelle, elle disait, l'apostolat du téléphone. Elle passait facilement 3-4 heures au téléphone. On lui téléphonait de l'Allemagne, de l'Autriche, pour lui demander des prières, pour lui demander des conseils. Et je peux dire aussi que, certainement, là où il y avait des fois des ménages... qui était dans des situations bien difficiles, et bien si les choses vont bien maintenant, c'est grâce à ses prières et à ses conseils. L'apostolat aussi du courrier. Elle recevait un courrier énorme d'Allemagne, mais aussi des pays de l'Est. Et elle répondait elle-même, elle tapait à la machine elle-même, et pas à trois mots, il y avait souvent plusieurs pages. Elle travaillait facilement jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, sa machine à écrire, pour répondre. Elle se faisait un devoir de répondre. Elle dit, on n'a pas le droit de laisser ces gens sans réponse. On a toujours quelque chose à leur apporter, un réconfort à leur apporter. Alors, ça a été aussi pendant de nombreuses années son apostolat. Et cela, sa grande correspondance qu'elle a eue, à partir du livre qu'elle a écrit sur Padre Pio, qui a suscité, les gens lui ont écrit, elle a répondu. Donc, elle a dû écrire son livre vers 63, je crois. Quelques mots sur les dévotions plus particulières de Madame Tangari. Je vous ai dit l'enfant Jésus de Prague, bien sûr. Elle avait une très grande dévotion depuis très longtemps, l'enfant Jésus de Prague. Elle a été donc elle-même très souvent à Prague. Et elle a diffusé autour d'elle cette dévotion. Elle avait des petites statues, je peux vous dire qu'elle en a distribué par centaines. Et lorsqu'elle se déplaçait, elle emmenait toujours avec elle sa statue de l'enfant Jésus de Prague. Elle avait aussi une très grande dévotion, bien sûr, pour Maria de Sel, où elle allait elle-même tous les ans accomplir son vœu. Grande dévotion aussi à Notre-Dame de Fatima. Elle avait connu des Hongrois durant son apostolat derrière le rideau de fer, et elle leur avait promis de prier d'une manière toute particulière pour eux, à Fatima. Car les Hongrois, pour ceux qui connaissent Fatima, entre le village des enfants et le terrain des apparitions, il y a un grand chemin de croix qui se termine par un calvaire en pierre. Et ce calvaire a été offert par les Hongrois. Et à chaque fois qu'elle a été à Fatima, elle a été souvent à Fatima, elle allait prier le rosaire devant ce grand calvaire. Et je vous cite deux faits à ce propos. Je me souviens, ça devait être je ne me rappelle plus, c'est 86 ou 80, non, 84 ou 85. Elle a été, au mois d'août, elle est tombée chez elle et s'est cassée l'épaule. Elle a passé plus d'un mois dans le plâtre. Elle avait déjà pratiquement, je crois, 80 ans. Au mois d'août à Naples, un plat, ce n'est pas facile à supporter vu la chaleur. Début décembre, on lui retire le plâtre. Et à son âge, si elle veut réutiliser son bras, de la rééducation était nécessaire. Au même moment où on lui retire son bras, son plâtre, quelqu'un lui offre un voyage à Fatima. Et elle dit, c'est le bon Dieu qu'il veut, il ne faut pas manquer l'occasion, se fait mettre dans un train et part pour Fatima. Elle arrive devant ce grand calvaire, elle avait l'habitude de réciter tout son rosaire, donc les 15 mystères du rosaire, les bras en croix. Elle a dit au Seigneur, si je ne retrouve plus la force maintenant de faire ce rosaire les bras en croix, je ne pourrai plus jamais dans ma vie. Et d'un moment à l'autre, elle a récité pendant 3 quarts d'heure son rosaire les bras en croix devant ce calvaire. Et l'année suivante, je l'ai accompagné moi-même en voiture à Fatima et je l'ai vu moi-même réciter devant ce calvaire pendant 3 quarts d'heure son rosaire pour les Hongrois et sans bouger. Elle avait une très très grande dévotion à Notre-Dame de Fatima, à Lourdes aussi. Elle a été très nombreuses fois à Lourdes durant sa vie. Et puis tous les sanctuaires qu'on trouve en Italie, spécialement Pompéi, qui était près de Naples. Elle priait toujours à genoux. Un jour, elle m'a dit, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir prier jusqu'au bout à genoux. Et du fait, lorsqu'on la voyait à la chapelle, on la voyait, à part par respect pour le prêtre, durant les prédications, elle était assise, sans ça, elle était toujours à genoux. Et le jour où elle a dû s'asseoir, eh bien, c'est le jour après, lorsqu'elle est tombée, s'est cassée. Le col du fémur, pratiquement, elle ne s'est plus remise assise, puisqu'elle est restée sur son lit tout le reste des mois qui lui restaient à vivre. Voilà un peu quelques prières aussi qu'elle aimait réciter. Elle récitait une prière qu'elle disait très efficace pour la glorification de Padre Pio. Je dirais que c'est la seule prière, les derniers mois de sa vie, elle était tellement faible qu'elle pouvait encore réciter. Elle m'a dit que c'était une fille spirituelle de Padre Pio qui avait fait cette prière. Il semble qu'elle ait pris un peu la prière de cette fille spirituelle et je crois qu'elle l'a un peu modifiée. Je ne sais pas, elle ne m'a jamais rien dit, tout au moins personnellement, sur l'origine bien précise de cette prière. Je vous la lis, c'était « Jésus en croix, écoute ma voix. Par tes grands tourments, donne-moi des consolations. Par la plaie de ton côté, par le sang versé par Marie des 7 douleurs, fais que Padre Pio soit béatifié, canonisé, glorifié. Lui qui a toujours glorifié Jésus sur la terre. » Et elle l'a dit, elle nous invitait à réciter cette prière en disant, lorsqu'il y a des difficultés, ça nous sort de difficultés, cette prière. Elle m'a raconté un voyage qu'elle a dû faire dans les années 86, entre l'Autriche et Altötting, donc le sanctuaire marial allemand. Elle avait dû aller voir quelqu'un, elle s'était fait prendre en taxi. Et pour le retour, il y a une tempête de neige, au point que toutes les routes étaient bloquées, les gens étaient arrêtés. Eh bien, elle n'a pas arrêté pendant, je crois, il y a 250 km à réciter cette prière. Elle a dit les 2 ou 3 fois, fatiguée, j'ai arrêté de réciter cette prière, la voiture s'est arrêtée. Elle ne pouvait plus avancer. Elle a dit, on a pu arriver, retourner où elle était en Autriche, grâce à cette prière. Et elle récitera toute sa vie à réciter cette prière. Ce qu'elle a rédigé qui résume assez bien sa vie, elle avait préparé, malheureusement je ne pense pas qu'il n'est pour tout le monde, j'en apporterai une autre fois, un petit mémento. C'est elle-même qui l'avait préparé, elle a mis ces quelques paroles qu'elle a écrites elle-même en différentes langues. Tout ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie fut une pure grâce de Dieu non méritée. Que vous, très douce Mère de Dieu, ayez voulu me donner tant d'amour pour vous, fut ma plus belle récompense. Donc toute cette attitude de son âme, et c'est ce qui était certainement le plus marquant, toujours pour remercier. Elle ne cessait de remercier le Seigneur de tout ce qui pouvait lui arriver, en bien comme dans la souffrance. Je vous dis les dernières souffrances, et elle a eu des épreuves certainement morales terribles les derniers mois de sa vie, eh bien elle ne cessait de remercier le Seigneur même pour cela. Même quand c'était la confusion la plus complète, même elle est tombée aveugle la dernière partie de sa vie. Depuis le mois de mars, pratiquement, jusqu'à sa mort, elle sera aveugle ou une vue très, très diminuée, elle sera incapable de lire et d'écrire. Eh bien, elle remerciait le Seigneur pour tout cela. C'est une attitude qu'elle a eue toute sa vie. Et je vous le disais tout à l'heure, le dernier cadeau, on peut dire, de son apostolat fut pour Monseigneur le 19 novembre. Elle était tellement faible qu'elle parlait de moins en moins. On avait toujours du mal à communiquer avec elle. Alors je lui ai dit que nous partions pour Paris pour le jubilé de Monseigneur. Alors je lui ai dit qu'on lui offrait, puisqu'on avait trouvé ça à Rome, ce rocher, donc ce surplis à dentelle, qui avait servi à Saint Pie X lorsqu'il était cardinal à Venise. Et m'a dit, mais vous savez, j'ai toujours, à toutes les grandes occasions, pour Monseigneur, fait un cadeau. Il faut absolument faire un beau cadeau à Monseigneur. Alors elle m'a dit, il faut téléphoner à Monseigneur pour lui demander ce qu'il a besoin. Et je lui dis, si je téléphone à Monseigneur, il me dira qu'il a besoin de rien. Et on sait très bien, tout ce que reçoit Monseigneur, il distribue autour de lui. Parce qu'il sait que, surtout en Amérique latine ou d'autres pays, ont plus besoin. Elle m'a dit, il faut faire un beau cadeau à Monseigneur. Elle a dit, moi je priais, c'est à vous de trouver. Eh bien, et il restait peu de jours avant notre départ à Paris, on a pu à Rome se procurer le drap mortuaire de Saint Pie X, qu'on a pu donc remettre de sa part à Monseigneur le 19 novembre. Voilà donc un peu quelques aspects de sa vie. Je dis, certainement il y a des pans entiers de sa vie que je ne connais pas. Bon, parce que je ne suis pas dans le tempérament d'interroger les gens, donc j'aurais pu le faire peut-être. J'espère, d'après les papiers qu'elle nous a laissés, et entre autres par des amis qu'elle avait en Autriche, entre autres, pouvoir avoir d'autres renseignements, et si le Seigneur le permet, de pouvoir rapidement qu'on puisse rédiger une petite brochure avec des photos et un peu le résumé de sa vie et d'autres détails que nous avons sur ses prisons, ou sur certaines grâces tout à fait exceptionnelles qu'elle a eues, par exemple, en 1950, lorsqu'elle était à Rome pour l'année sainte. Alors, il y a un de ses confesseurs qui lui a demandé de rédiger cela. Et alors, c'est conservé. On a une copie de la rédaction de comment elle a pu faire son jubilé à Rome après beaucoup d'épreuves, mais aussi toutes les grâces qu'elle a pu recevoir. Et puis, en même temps, j'espère que sera traduit, donc, son récit de prison, au moins cette partie de récit de prison, en Tchécoslovaquie. Mais elle disait, elle répétait, les années de prison, les mois de prison que j'ai pu faire ont été les plus belles années de ma vie. Les plus grandes grâces que le bon Dieu m'a fait. Parce que pour elle, c'était le moyen, bien sûr, le plus beau pour s'unir aux souffrances de notre Seigneur. Alors voilà un peu ce qu'on peut dire, enfin, sur Madame Tangari. Je pense qu'on peut très bien la prier, vous savez. Elle intercède au ciel pour nous, c'est évident. Elle l'a fait durant sa vie. Elle nous a beaucoup aidés. Mais bon, c'est vrai matériellement, mais certainement encore beaucoup plus par sa prière. Et je suis convaincu qu'elle continue. Nous pouvons très bien la prier. Et elle nous obtiendra les grâces dont nous avons besoin. Surtout, je dirais, pour l'apostolat, pour faire du bien autour de nous. C'était une âme d'apostolat. Je ne l'ai jamais vu refuser à qui que ce soit. Vous savez qu'en Italie, que ce soit à Rome ou à Naples, les mendiants, les pauvres, ça ne manque pas. Tout ce qu'elle avait sur elle est donné. De toute façon, elle savait que si ça sortait par une poche, ça rentrerait d'une manière ou d'une autre par l'autre. Il ne fallait pas se préoccuper. D'une générosité extraordinaire, n'ayant rien à elle. Nous avons vidé son appartement, nous savons bien, elle avait presque rien, vivant dans une grande pauvreté. Mais c'est une âme de prière. C'était extraordinaire de voir, on ne pouvait pas sortir d'un entretien avec elle sans en sortir pacifié, réconforté. Elle ne pouvait pas parler d'un sujet ou d'un autre sans référer, sans parler de notre Seigneur. Elle vivait tellement en contact avec notre Seigneur que cela transparaissait autour d'elle, ça se manifestait autour d'elle. Et les gens qui pouvaient la contacter, la voir, en sortaient réconfortés. Alors je pense que si elle a fait beaucoup de bien durant sa vie, eh bien, elle peut certainement continuer à le faire maintenant. Voilà, merci.
Devant vous, je m'engage sur mon honneur et je te fais l'hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège-moi.
Protège ma promesse.
Le ciel.